relève la sauce. Un peu de sel, un peu de poivre. Et quelques épices. À la découverte de la vie associative mayonnaise.
Bonjour à vous, bonjour à tous, auditeurs, auditoristes de l'autre radio, et bienvenue justement dans l'émission On relève la sauce, émission où on décortique les recettes de la vie associative en Mayenne pour en découvrir les ingrédients. Aujourd'hui, au menu, la découverte ou la redécouverte pour les plus fidèles d'entre vous de l'autre radio, de deux plats locaux. Je vous propose donc d'écouter deux portraits d'associations mayonnaise, La Cavale du Fou et l'association Liné. Donc pour commencer, je vous propose donc l'association La Cavale du Fou, association de Château-Gontier, et on écoute tout de suite l'interview de Alexandre Romon, entraîneur d'échecs.
Alors Fou F4, Roi D4.
Et tout.
Et tour D1, mais je peux probablement faire roi C5.
Je m'appelle Alexandre Romon, je suis entraîneur d'échecs en Mayenne, mais je donne également des cours sur Internet, sur Laval, sur Mayenne. Et donc j'effectue cette activité à temps plein depuis 2016. Voilà, donc c'est ma sixième année du coup en tant qu'entraîneur.
Vous, j'imagine que ça fait très longtemps que vous pratiquez, que vous jouez aux échecs. Comment est-ce que vous êtes tombé dedans ?
Alors, rien d'original. Comme une bonne partie des joueurs d'échecs apprennent en fait grâce à leurs parents et le plus souvent grâce à leur papa. Donc, c'est mon cas aussi. C'est mon père qui m'a montré à moi et à ma petite sœur quand on était vraiment tout petit. Et puis, à partir de là, en fait, quand on accroche, on accroche. Et donc, je joue sans interruption, on va dire, depuis... plus d'une vingtaine d'années.
Bon, vous étiez déjà bénévole. Comment le club s'est structuré petit à petit aussi ? Comment ça s'est passé ?
Le club a commencé à être, on va dire, structuré à partir des années 2000, date en fait à laquelle mon père est arrivé en Mayenne et donc a pris un petit peu en main le club d'échecs. Et donc, je dirais que ça va au gré des saisons, mais globalement, au fur et à mesure, étant donné que mon père est en même temps animateur scolaire sur le pays de Château-Gontier. Donc, par son intermédiaire, ça amène des jeunes vers les échecs. C'est également mon cas. Donc le club se développe petit à petit. Avec la crise, la pandémie et tout, forcément, ça a un petit peu, on va dire, ralenti la croissance. Tout se passe bien. Disons que pour une petite ville comme Château-Gontier, le club de Château-Gontier, voilà, c'est une belle vitrine, on va dire.
Combien il y a de licenciés dans le club ?
Alors, au niveau du club, doit y avoir une cinquantaine de licenciés. Le maximum doit être aux alentours de 150, ce qui est quand même trois fois plus. Mais sur ces 150, c'était beaucoup de scolaires qui participaient ensuite au championnat scolaire. Et avec les temps qui courent, difficile d'organiser des compétitions scolaires aussi facilement qu'auparavant. Donc,
une cinquantaine de licenciés qui sont, j'imagine, dans plusieurs groupes, plusieurs catégories. Quelles sont-elles ?
Alors, y a différentes catégories. Il va y avoir tout ce qui va être... cours à proprement parler, donc des joueurs qui viennent et qui s'inscrivent vraiment dans une perspective de cours, de progrès, de compétition, c'est la suite logique au cours. Et puis il va y avoir aussi des joueurs qui sont plus dans une optique loisir, donc qui sont là pour plus pour s'amuser, pour pratiquer, sans forcément trop se prendre la tête entre guillemets, même si quand on joue aux échecs on va toujours se prendre la tête, mais c'est pour la bonne cause. On a aussi quand même des scolaires qui sont là par les intermédiaires donc des cours dans les écoles. Il y a aussi différents cours. Là, vous avez un groupe ici de joueurs, puis il y a un autre groupe de joueurs qui est en train de jouer au Cercle de Flore. Sur d'autres créneaux, enfin d'autres jours de la semaine, il y a d'autres groupes encore.
Pour prendre l'exemple du groupe qui est devant nous, on voit qu'il y a tout âge par rapport à d'autres disciplines, peut-être d'autres jeux où on a vraiment des catégories d'âge. Là, c'est plus une question de niveau, de capacité.
L'avantage, ou du moins la différence entre les échecs et par exemple la boxe, où on ne va pas pouvoir faire combattre un poids plume avec un poids lourd, c'est qu'aux échecs, on peut se faire jouer un enfant qui fait 25 kilos contre un adulte qui en ferait 80. Il n'y a strictement aucun problème. Et pareil pour ce qui va être du genre, on n'est pas du tout limité à ce niveau-là non plus. Donc oui, aux échecs, tout le monde peut jouer de 7 à 77 ans, comme on dit. Donc ça donne aux échecs un aspect intergénérationnel, un aspect un peu universel aussi. puisqu'on peut jouer contre, bah, par exemple sur Internet, on peut jouer contre des joueurs d'absolument tous les pays, toutes les nationalités. Voilà, on a un langage commun qui est le jeu d'échecs et ça fonctionne très bien.
Comment justement vous progressez ensemble? Quels exercices vous leur faites faire?
Essentiellement du calcul. Voilà, je pourrais vous faire une réponse en 4 heures avec entrée, développement, conclusion. Mais non, c'est du calcul et du calcul. Il faut savoir calculer avant tout. C'est ça qui bouffe en général le vendredi soir. Souvent, c'est ce qui revient quand on entend des gens parler du jeu d'échecs, c'est combien de coups à l'avance tu calcules. C'est ce qu'on s'attache à faire ici. Avec plus ou moins de succès. Il faut s'entraîner, il n'y a pas de secret. N'importe qui peut prétendre avoir un très bon niveau, à condition de faire ce qu'il faut pour. Ça ne vient pas comme ça tout seul en claquant des doigts, même si certains ont plus de facilité que d'autres. Mais à la fin, c'est toujours celui qui a fourni le plus d'efforts qui finit en tête. Ça, c'est systématique. Quand vous êtes arrivé, on faisait un exercice qui s'appelle le calcul à l'aveugle, les échecs à l'aveugle, où je vais leur demander de calculer de tête sans que je déplace les pièces. Ce qu'ils vont faire à chaque fois qu'ils font une partie d'échecs. Ils ne vont pas interrompre la partie, déplacer les pièces pour vérifier leur calcul en prévenant leur adversaire et puis après remettre les pièces, ça ne marche pas comme ça. Donc c'est quelque chose qu'ils font tout le temps, mais je les connais très bien et je sais très bien que si je ne les oblige pas à faire artificiellement cet exercice, ce travail, ils ne le feront pas chez eux. Donc j'en profite, tester et approuver.
C'est forcément des joueurs qui sont dans une optique aussi de compétition avec chacun leurs objectifs.
Alors ils font tous donc des matchs par équipe où ils représentent le club de Château-Gontier. Voilà, et puis donc comme dans tous les sports, on a un championnat qui est organisé donc à différents échelons, départemental, régional, national, et ils vont aussi faire pour une bonne partie d'entre eux donc des compétitions individuelles où là ils ne représentent qu'eux-mêmes et donc ils vont affronter des joueurs d'absolument tous les milieux, toutes les horizons. Tous les joueurs qui sont ici font de la compétition, c'est même une des conditions en fait qu'on demande aux joueurs pour faire partie de ce groupe, c'est de s'investir en parallèle pour faire des tournois. Alors, prendre des cours, évidemment, tout le monde est le bienvenu, mais ça prend beaucoup plus de sens si après, en conditions réelles, on va mettre ça en pratique contre d'autres joueurs. Voilà, on met les actes en cohérence avec les paroles. On a des compétitions avec des cadences très rapides, où les joueurs vont avoir moins de 10 minutes pour faire leur partie, et des compétitions avec une cadence beaucoup plus lente, où là on a 1h30 de chaque côté pour faire la partie. On peut presque dire que c'est presque un sport différent à ce moment-là. Depuis une dizaine d'années, le club envoie généralement entre 1 ou 2 joueurs au championnat de France. Alors là on avait 3 joueurs, mais les conditions étaient également un peu particulières puisqu'en fait l'étape régionale avait été sautée et donc on passait directement de l'échelon départemental à l'échelon national, ce qui rendait, il faut être objectif, la qualification plus facile aussi. Pour un joueur de la Mayenne, donc avec les moyens qu'on a à disposition, c'est déjà bien de pouvoir aller au championnat de France. C'est une satisfaction de voir qu'un joueur qui a été formé au club et en mesure d'aller donc au plus haut échelon national. Évidemment, après, il y a le championnat d'Europe, puis le championnat du monde, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, c'est bien pour le club, et puis après, le joueur va bien le rendre au club, puisque c'est un joueur qui, progresse, et dans les compétitions, est en mesure d'apporter des points au club, donc c'est gagnant-gagnant.
Pour être joueur d'échecs, il faut aussi avoir l'esprit collectif.
ça dépend toujours. Quand on fait des matchs individuels, à vrai dire, c'est une donnée très secondaire, mais une grande partie de l'activité du jeu d'échecs vient quand même justement de la vie des clubs, puisque c'est les clubs en fait qui vont organiser toute la vie associative, la vie fédérale. Et donc à partir du moment où on parle de club, on parle d'équipe. Quand on parle d'équipe, on parle de collectif. Donc oui, être un joueur purement individuel, puis ne serait-ce qu'on vient au club, si on n'est pas content d'être là avec les copains pour jouer, ça a peu de sens. Donc au final, c'est vrai que le jeu d'échecs a une image, on est contre son adversaire en match individuel. Mais quand on a les copains qui jouent sur les échiquiers d'à côté, forcément, le score du match va dépendre de ce que font les autres. La première qualité, avant tout, c'est être prêt à perdre beaucoup de parties et à quand même être là le jour suivant. Ce serait la qualité qu'on va retrouver chez tous les sportifs. Hein. C'est la combativité, l'abnégation. Et puis après, il y a évidemment des qualités spécifiques au jeu d'échecs. Donc ça va être une forme de logique. Hein. C'est impossible ici de dire le contraire. Une bonne mémoire, ça peut aussi aider, c'est pas du tout un prérequis. De la logique, de l'ambition, de l'envie, de la motivation, garder la motivation aussi. Parce que là aussi, une caractéristique des échecs, c'est que on ne devient pas bon en un an, par exemple. Il faut du temps. Ça, c'est quelque chose qu'on peut éventuellement voir dans d'autres sports, des progressions vraiment fulgurantes. aux échecs pour vraiment partir du point de départ à un niveau, ce qu'on pourrait dire à un niveau national, c'est on parle de minimum 5 ans, voire 10 ans pour la plupart des joueurs. Et donc c'est un énorme investissement à tous les niveaux qu'il faut être prêt à faire. Mais heureusement, on n'a pas besoin d'atteindre ce niveau pour aimer les échecs et être tout à fait heureux de sa pratique.
Vous l'avez entendu, ce portrait a été réalisé par Marie de l'AJT du local. Si vous voulez plus d'informations justement sur le club d'échecs La Cavale du Fou, vous pouvez retrouver l'ensemble des contacts ou événements sur château-gontier-échecs.com, dont d'ailleurs pour leur prochain événement qui aura lieu le dimanche 1er mai, le tournoi, le rapide du Muguet qui aura lieu donc à la salle des fêtes de Château-Gontier sur Mayenne. On se retrouve juste après pour le deuxième portrait d'association, la deuxième découverte de notre plat locaux pour l'association Liné. Et avant ça, une petite pause musicale avec Baz, les échecs justement.
J'ai avancé mon fou pour te prendre ma reine. Attendre me rend fou, je vais tenter le coup. J'ai avancé mon fou et je ne veux pas perdre. À part toi tout le reste je m'en fous. J'ai avancé mon fou pour t'arrêter net, te stopper ma reine. Dans ta jolie retraite, j'attends ton prochain coup de fil et de tonnerre. Je sais, c'est encore flou, l'amour, c'est pas très net. Les échecs, ah, chérie, chérie, ça me connaît. Ah, les échecs, ah, c'est mon jeu préféré. Avancer mon fou pour t'empêcher ma reine d'aller te coucher près de ton cavalier. Prise dans la diagonale d'un amour digital, tu n'auras d'autre choix que d'être mon idéal. Idéal. Tu connais tous les coups, je connais tous les cas. Oh mais celui-là en tout cas, il est pour toi et moi. Ce qui va se passer, la partie terminée, pieds et poings liés, les dés sont jetés. Et jetés. Les échecs, ah, chérie, chérie, ça me connaît. Ah, tu sais, les échecs, ah, c'est mon jeu préféré. Chérie, chérie, ça me connaît. Ah, tu sais les échecs. Ah, c'est mon jeu préféré.
Les échecs de Bazbaz. On continue dans l'émission. On relève la sauce sur l'autre radio avec la deuxième découverte donc d'une association locale, un petit plat local, avec la toute jeune association basée à Évron, dont l'objectif est la sensibilisation et le sauvetage des NAC, c'est-à-dire les nouveaux animaux de compagnie, l'association Liné. Toujours au micro de Marie, notre journaliste tout-terrain, interview, portrait avec Diane Boyer et Victor Roncin.
Donc je m'appelle Diane, je suis donc coprésidente avec monsieur, tous les deux fondateurs de l'association. Je travaille en ce moment à la SPA de Laval. J'ai travaillé dans pas mal de choses liées aux animaux, notamment des centres de soins à la faune sauvage, des parcs zoologiques. Donc voilà, j'ai une vision assez globale du milieu. J'ai fait pas mal de choses en lien avec les animaux, justement.
Moi, je m'appelle Victor, j'ai 25 ans. Je suis professeur à Évron et j'ai appris... en quelque sorte le métier du fait de Diane sur le tas, parce que je n'ai qu'une formation pour ça.
Et donc vous avez tous les deux décidé de créer cette association Liné il y a déjà un petit peu plus de 2 mois. Comment vous est venue cette idée déjà et pourquoi vous engagez dans un tel projet ?
Alors en fait, c'est quelque chose qu'on fait du coup officieusement depuis déjà maintenant 6 ans peut-être. Simplement on était encore pas sûr de où nous allions habiter puisque monsieur est professeur, on attendait sa mutation en fait tout simplement. Donc voilà, là c'est le déménagement qui a déclenché la création de l'association. Mais c'est quelque chose qu'on fait effectivement depuis pas mal de temps. Le besoin s'en ressent beaucoup en fait, il y a très peu de choses pour ce type d'animaux qui existent. Donc voilà, on s'en est rendu compte en fait au fur et à mesure, en étant dans le milieu, on s'est dirigé faire ce dont il y avait besoin en fait, tout simplement.
Quand vous dites ce type d'animaux, vous pensez à quoi en particulier ?
Donc nous sommes spécialisés dans ce qui s'appelle les nouveaux animaux de compagnie, donc les NAC. Donc ça va être les oiseaux, les reptiles et les petits mammifères de type lapin, furet, cochon d'Inde, voilà, choses comme ça, qui sont des animaux encore assez mal connus, mais qui sont très à la mode. Donc, il y a beaucoup de besoins de prise en charge, notamment puisqu'il y a beaucoup d'abandon, car les gens ne connaissent pas très bien. Et il y a aussi beaucoup besoin de sensibilisation, justement, parce que voilà, les gens ne connaissent pas très bien leurs besoins et se lancent en se disant que c'est un animal qui n'a pas beaucoup de besoins et se rendent compte que si. Voilà.
Selon vous, c'est parce que les gens ne sont pas forcément, en tout cas les propriétaires de ces nouveaux animaux de compagnie, ne sont pas forcément bien informés qu'ils ont tendance, peut-être plus malheureusement, à les abandonner ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les chiens et les chats, c'est quelque chose qui sont des animaux qui vivent avec l'homme depuis plusieurs millénaires, tout de même. Donc on connaît quand même globalement les besoins d'un chien ou d'un chat. Ces nouveaux animaux, justement, on se dit, bon, bah, on le met dans une cage, il fait sa vie. Non, ce ne sont pas des animaux qui peuvent vivre en cage, par exemple. Donc voilà, les gens se font de mauvaises idées sur leurs besoins et sur le temps que ça va leur demander de s'en occuper. Et ils se lancent sans trop connaître. Et du coup, voilà, ça mène à de la maltraitance ou, avant, quand les gens s'en rendent compte, à un abandon, justement.
Et il n'y a besoin de, ni diplôme ni rien pour les nouveaux animaux de compagnie. Et les animaleries vendent ça très facilement. Ce n'est pas très cher. Vendre sans se préoccuper des conditions dans lesquelles ils vont vivre, ne donne pas d'indication. Ce sont des vendeurs, donc pas spécialement nécessaire pour eux d'informer les gens correctement. Et donc les gens se retrouvent avec des animaux à des prix très abordables, etc. Et on n'a pas pris la peine de leur expliquer comment s'en occuper.
Vous parlez justement de savoir comment vous en occuper. J'imagine que vous êtes aussi renseigné, peut-être formé justement pour pouvoir bien s'occuper de ces nouveaux animaux de compagnie.
Oui, effectivement, on se lance pas comme ça sans rien. S'occuper de ces animaux-là demande effectivement pas mal d'expérience et il y a également des formations. Donc moi, je suis titulaire de ce qui s'appelle la CACED, qui est une certification d'État en fait pour les animaux domestiques. Voilà, une formation que j'ai passée l'année dernière. Avec les animaux, il n'existe pas énormément de certificats et de formations, à part bien sûr quand on est vétérinaire, mais on n'est pas là non plus. Donc c'est surtout une expérience que j'ai, voilà, encore une fois, sur le tas, dans beaucoup de structures différentes. Donc évidemment, on se renseigne énormément puisque c'est mis à jour très régulièrement et que avec les avancées scientifiques aussi, on apprend toujours des choses. Donc voilà, on se tient au goût du jour.
Et alors là, pour l'instant, pour les débuts de l'association, quelles sont vos principales activités? Est-ce que c'est surtout justement recueillir ces animaux qui ont été abandonnés ou bien aller plutôt vers la sensibilisation pour peut-être éviter justement qu'il y ait autant d'abandon? Ou les deux, peut-être, tout simplement.
Tout à fait les deux, effectivement, puisque l'un évite l'autre. Donc on cherche surtout à faire de la sensibilisation, de l'éducation, voilà, sur ces choses-là. Et bien sûr, on est déjà opérationnel pour accueillir ces animaux qui sont déjà abandonnés. Voilà, parce que quand les gens veulent les abandonner, on ne va pas dire non. C'est un petit peu trop tard pour rattraper la chose, mais voilà.
Voilà, et donc pour la sensibilisation, on passe dans les écoles, dans les manifestations publiques. Donc,
fête de quartier.
Si les gens veulent nous faire confiance pour discuter de ça, on sera ravis de venir. Soit dans les fêtes associatives, soit dans les écoles pour les jeunes publics, etc.
Là, les animaux qui sont abandonnés, donc vous dites être prêts à les accueillir, est-ce que vous avez déjà ce qu'il faut, c'est-à-dire une structure et tout le matériel qu'il faut pour les accueillir?
Tout à fait. Alors du coup, on est déjà opérationnel pour tous les petits gabarits. Donc en fait, les oiseaux, les reptiles, les petits mammifères, sans problème. Étant donné que ce sont surtout des animaux qui vont être en cage la nuit, puis la journée être en liberté dans la maison. C'est comme ça qu'on les accueille normalement. Donc ça, pour le coup, on peut déjà le faire. Et nous sommes en recherche actuellement donc de locaux qui correspondent à l'ouverture d'un refuge. Donc, qui nous permettrait d'accueillir également des équidés, des chevaux, des ânes et animaux de ferme, choses comme ça. Voilà. Donc ça, pour le coup, on ne peut pas encore, parce qu'en maison, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, pour tous ces petits animaux-là, nous avons déjà, bien entendu, tout ce qu'il faut. Bien sûr, les dons sont toujours accueillis, mais voilà, on a déjà un nombre de cages et de volières suffisants pour ces animaux-là.
Quels animaux et dont avez-vous accueilli, alors sans forcément tous les citer peut-être, mais donner quelques exemples en tout cas de certains?
On a déjà accueilli donc des oiseaux, des petits reptiles et des petits mammifères. On a fait de tout. On a eu des cochons d'Inde, des pogonas qui s'appellent, c'est une sorte de petit reptile.
Des iguanes.
Ainsi que divers types de perruches. Mais qui du coup ne restent pas chez nous. Le but, c'est de les accueillir, mais de les faire réadopter ensuite. C'est de leur trouver une nouvelle famille qui, elle, saura s'en occuper et les accueillir de bonne manière. Donc c'est le cas, du coup, ils sont venus, puis repartis. Et on a accueilli également plusieurs goélands. Donc là, pour le coup, ce sont des animaux sauvages. Donc moi, personnellement, je ne suis pas habilitée à prendre en charge la faune sauvage d'un point de vue vétérinaire. Donc en fait, on les prend en charge pour les transférer vers les structures qui sont, elles, habilitées. On a un partenariat en fait avec le Refuge de l'Arche à Château-Gontier, qui est justement un centre de soins à la faune sauvage. Donc nous, voilà, moi j'ai fait beaucoup de bénévolat dans des centres de soins, donc je connais les premiers soins, les choses comme ça. Donc on peut tout à fait les prendre en charge pour les acheminer au plus vite, bien sûr. Mais voilà, c'est déjà quelque chose qui est possible également. Pas hésiter à faire appel à nous dans ces cas-là.
Les animaux que vous aviez à l'adoption, là, ont tous trouvé une nouvelle famille d'accueil ou il y en a d'autres qui peinent peut-être plus depuis quelques semaines à trouver une autre famille?
Alors pour l'instant, du coup, nous avons eu des animaux, entre guillemets, un peu plus faciles à placer. Donc effectivement, on a trouvé assez rapidement. Et là, par exemple, on s'apprête à prendre en charge, donc pour le coup, comme je vous disais, on n'est pas encore bon pour les animaux de ferme, mais on va le prendre en charge administrativement. Il va être accueilli en fait par une famille d'accueil. Donc ce sera un jeune bouc, donc qui lui va être à l'adoption dès la semaine prochaine, voilà, qui cherche sa famille pour la vie.
Donc si quelqu'un veut un bouc, voilà. Vous êtes les bienvenus. Vous écoutez la bonne émission.
Et c'était justement ma prochaine question, c'est-à-dire que si on veut se renseigner sur les animaux qui sont à l'adoption, on peut aller sur votre site, vos réseaux sociaux, comment ça fonctionne?
Tout à fait, on a effectivement un site internet, une page Facebook. Dans les deux cas, on met effectivement des photos et le plus d'informations possible sur les animaux à l'adoption, en sachant que voilà, nous, on demandera forcément quelques informations sur les conditions d'accueil de l'animal, puisque le but, ça va être de le placer dans une bonne famille. Mais voilà, si quelqu'un est intéressé pour adopter, faut pas hésiter à regarder et à nous appeler, de toute façon, on saura renseigner.
J'imagine que ça peut être aussi assez chronophage par rapport à vos autres activités. C'est forcément quelque chose qui vous tient à cœur aussi depuis longtemps.
Tout à fait. Alors disons que monsieur s'est un petit peu laissé entraîner par le mouvement. Moi, j'ai toujours été passionnée d'animaux. Voilà, j'ai commencé très jeune à m'intéresser à faire du bénévolat dans des refuges, des choses comme ça. Donc, voilà, c'était inévitable, une activité de ce genre. Donc, effectivement, ça prend beaucoup de temps, mais voilà, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Donc, je fais en sorte de pouvoir y consacrer le plus de temps possible, tout en étant évidemment salariée, puisqu'on ne peut pas vivre de l'activité d'un refuge, ça va sans dire. C'est pourquoi tous les dons sont toujours tout à fait bien appréciés.
Mais il ne faut pas être passionné par le temps libre pour faire ça.
Ça, c'est sûr.
Comment est-ce qu'on peut s'occuper aussi bien d'un bouc que, j'ai oublié le nom, mais d'un iguane que, que d'un autre oiseau? Parce que j'imagine que c'est forcément des animaux qui nécessitent des soins différents aussi.
Effectivement, ce sont des conditions de vie très différentes. On va avoir par exemple l'iguane qui lui doit être dans un terrarium avec une chaleur avoisinant les 40 degrés au point chaud, avec le moins de manipulation possible. À côté, on va avoir des oiseaux avec lesquels il faut limiter le plus possible le stress, mais qui ont besoin de perchoirs. Enfin voilà, chacun a ses petites habitudes de vie qu'il faut respecter. Donc c'est pour ça que c'est très important de se renseigner avant. On ne peut pas vraiment faire de généralité quand il s'agit des animaux, de se dire oui, bah, de manière générale, de toute façon, il a besoin de ça. Alors, on peut généraliser en disant qu'ils ont tous besoin de boire de l'eau et de se nourrir, mais sinon, après, le reste, ça change tout le temps.
Et quels conseils, justement, vous pouvez donner à peut-être certains auditeurs qui se disent « Moi aussi, j'aimerais bien adopter un de ces nouveaux animaux de compagnie, mais je ne m'y connais pas forcément. »
Alors effectivement, on est bien entendu là pour répondre à toute question. Mais déjà, dans un premier temps, je conseillerais de ne pas hésiter à s'adresser à un vétérinaire, qui sont bien entendu de bons conseils également. Je donnerais comme conseil aussi d'éviter d'acheter en animalerie et de plutôt adopter, puisqu'il y a beaucoup d'associations comme la nôtre qui ont des animaux à l'adoption qui attendent une nouvelle famille. Et ça évite aussi de, voilà, d'encourager l'idée de l'animal étant dans le commerce. Voilà, dans les animaleries, ce ne sont pas forcément des très bonnes conditions de vie aussi, donc c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter.
Un des bons réflexes à avoir, c'est d'essayer de savoir comment les animaux vivent de façon sauvage.
Oui, c'est
donc,
ça.
Comment cet animal vit quand il a une vie dans la nature.
Essayer de reproduire ça à la maison.
Il faut essayer de ramener le plus possible ce genre de choses. Par exemple, des choses assez évidentes qu'on ne sait pas. Le pogonais, c'est un animal qui vit en Australie. Et donc, on se rend compte qu'il faut qu'il fasse chaud. Mais ce dont on ne pense pas forcément, c'est que la nuit, par contre, il fait très froid. Donc, il faut que la température baisse énormément. Pratiquement 20-25 degrés entre le jour et la nuit.
Si quelqu'un trouve un animal sauvage blessé, le mettre en carton, ne pas le manipuler, le mettre au calme et au chaud, et appeler au plus vite donc une association comme nous ou directement un centre de soins à la faune sauvage. Ça peut être important de dire ça, puisque les gens peuvent se trouver démunis, vouloir par exemple nourrir l'animal. Et dans ces cas-là, on peut faire plus de mal que de bien. Donc vraiment, voilà, on le met au calme, on n'y touche plus.
Et donc voilà, merci encore à Marie pour ce portrait. Donc si vous voulez plus d'informations sur cette association, l'association Liné, vous pouvez retrouver les nouvelles aussi des animaux qui peuvent être adoptés ou ceux qui l'ont été sur leur site association-liné, donc liné.gymdocite.com. Voilà pour les portraits de ce mois-ci. Un petit tour rapide des actualités avec le peu de temps qui nous reste. Une porte ouverte organisée par l'association Mia Mia à Mayenne. Mia Mia, l'association qui porte le projet de lieu passerelle et de rencontre et de partage entre les habitants et les exilés sur la ville de Mayenne, organise ce week-end une porte ouverte samedi de 10h à 18h. Donc n'hésitez pas à aller à leur rencontre. Et donc c'est au 130 rue de la Visitation à Mayenne. Autre information beaucoup plus proche pour ceux qui sont plus intéressés sur les compétences psychosociales. Donc la Ligue de l'Enseignement organise ce soir même une conférence quartier Ferrié, salle 1 donc du bâtiment 13, autour de quand adolescence rime avec compétences, les siennes, les vôtres. Tout un programme avec l'intervention l'intervention de Sotaria Amarantos du cabinet Jeunesse Développement Intelligent. Donc, il reste encore des places, n'hésitez pas. Si jamais vous ne pouvez pas vous déplacer, l'autre radio enregistre cette conférence et elle sera disponible sur notre site. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis et d'avoir découvert avec nous ces deux petits plats, ces deux petites associations locales. Nous, on se retrouve le mois prochain, pour encore une thématique autour du bénévolat. On rencontrera, on discutera donc les assises du bénévolat qui seront organisées sur le pays de Château-Gontier. Et je vous souhaite donc une belle fin de journée à l'écoute de l'autre radio, et au mois prochain.